Radio Okapi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Oui, mars, journée de la femme à Béni au Nord Kivu. Les femmes sont appelées à utiliser le système digital et numérique pour la sensibilisation des familles sur les risques des engins explosifs. Et puis le cessez-le-feu décrété par le M23 n'a pas été respecté sur le terrain des opérations. Nous sommes au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis hier mardi jusque tard dans la journée dans les territoires de Masisi. Notre invitée est Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. À Goma, la sensibilisation contre la désinformation qui impacte sur la vie de la femme et de la communauté sera au cœur des activités initiées par ce collectif durant ce mois de mars 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le monde célèbre ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À Béni, le Comité pour la justice et unité, une structure membre du collectif des associations féminines pour le développement, appelle les femmes à utiliser les outils de la communication digitale pour la sensibilisation sur les risques que représentent les engins explosifs improvisés dans la région. Selon cette structure qui prône la justice et l'unité pour les femmes, cela sauverait des vies. Janine Nabintou Mouhiroa, assistante au département genre du Comité pour la justice et l'unité, est au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes en train d'appeler à toutes les femmes à la prise de conscience et à la vigilance, parce que c'est sûr, nous devons, comme le thème que nous avons international, donc l'implication de la femme dans la numérisation, dans la digitalisation. Donc quand nous voyons des images là, déjà ça doit nous éveiller en nous quelque chose. Ça doit nous pousser vraiment à être vigilants partout où nous allons. Et essayer aussi de sensibiliser les autres, les enfants, parce qu'on dit que la femme c'était l'éducatrice de la nation, quoi. Donc quand directement elle sait manipuler les téléphones, c'est pas à l'ordinateur, elle peut facilement aider, sauver des vies. À partir de, ça peut être par les sensibilisations, en invitant les femmes du quartier par exemple, soit de l'église, en leur montrant les conséquences, qu'est-ce que ça fait, ça va nous aider tous à bien nous comporter partout où nous allons.
Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC sont le thème retenu cette année au niveau national pour le mois de mars. Il est tiré du thème mondial intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Thérèse Kankou revient sur quelques activités prévues durant ce mois et aussi sur les enjeux des filles à relever.
La célébration officielle qui lance les activités liées au mois de mars se fera le mercredi 8 mars au Palais du Peuple. Pour le ministère du Genre, Famille et Enfants qui organise cette activité, le but est de célébrer la Journée internationale de la femme avec la perspective de disposer d'un cadre de dialogue entre le président de la République et les femmes de toute la RDC. De son côté, l'ONU Femmes a lancé le 2 mars dernier une campagne de digitalisation pour la dissémination dans le cadre du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. À travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications, il est attendu un meilleur accès aux informations pour les femmes entrepreneurs afin de renforcer leur participation économique. Le projet PADEM-PME a remis à cette occasion 1200 téléphones Android aux femmes entrepreneurs et encodeuses pour la sensibilisation mais aussi pour la collecte des données désagrégées sur l'entrepreneuriat féminin en RDC. Pour revenir au thème retenu cette année au niveau national, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC, les défis majeurs à relever demeurent entre autres la sensibilisation des femmes et des filles au monde numérique, l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales des filles et des femmes dans le monde digital, ainsi que l'amélioration des compétences numériques des jeunes filles dans tous les domaines.
Par ailleurs, dans un message rendu public à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU dit saluer les accomplissements des femmes et des filles de tous les horizons et des quatre coins du monde, tout en reconnaissant les énormes obstacles auxquels elles font face, qu'il s'agisse des injustices structurelles, de leur marginalisation, des violences, des crises en cascade dont elles sont les premières et principales victimes, ou encore du fait qu'elles sont privées de leur autonomie personnelle et de leur droit de disposer de leur corps et de leur vie. Le patron de l'ONU plaide par ailleurs pour la réduction de la fracture numérique et l'accroissement de la représentation de la femme et des filles dans les domaines des sciences et des technologies. Florida Kahambu nous donne l'essentiel de ce message.
Pour Antonio Guterres, la discrimination fondée sur les genres nuit à tout le monde, femmes, filles, hommes et garçons. La Journée internationale des femmes nous engage à agir, ajoute-t-il. agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en payent le prix fort, agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles, agir pour accélérer la pleine participation et le leadership des femmes. Selon le patron de l'ONU, le thème de cette année met en avant le rôle crucial de la technologie et de l'innovation dans l'avancement de l'égalité des genres. D'après lui, la technologie peut élargir l'accès des femmes et des filles à l'éducation et leur ouvrir de nouvelles perspectives. Mais elle peut aussi être utilisée pour amplifier les abus et la haine. Ensemble, œuvrons main dans la main avec les gouvernements, les secteurs privés et la société civile pour bâtir une société plus inclusive, juste et prospère, au bénéfice des femmes, des filles, des hommes et des garçons du monde entier, conclut le secrétaire général de l'ONU.
En Nord-Kivu, en bref, les combats se sont poursuivis hier mardi jusque tard dans la journée dans le territoire de Massissi. Cela malgré la déclaration d'une cessation des hostilités émise par les rebelles du M23 depuis la mi-journée. Les sources locales affirment que dans la matinée, les rebelles et leurs parrains rwandais ont reconquis la localité de Karuba, qui est un autre important centre d'approvisionnement en produits agricoles, à une quinzaine de kilomètres au nord de Sake, sur l'axe Ngungu. Justice à présent au procès de flagrance du député national Edouard Mwangatutu devant la haute cour militaire. Les avocats de la défense plaident contre la procédure engagée. Ils demandent également à la cour de se déclarer incompétente et de libérer leurs clients dont ils clament l'innocence. Ce que rejette le ministère public s'effondrant sur la loi. L'affaire est prise en délibéré. La cour rendra le 14 mars prochain son arrêt avant d'y droit sur le mémoire développé par la défense à l'audience publique d'hier mardi. Reportage de Jeff Ngoy.
Trois préalables sont développés par la défense, à savoir l'irrégularité de la procédure de flagrance, l'incompétence de la cour, puisque c'est à la cour de cassation que la constitution confère la compétence de juger les députés. Si tous ces moyens sont rencontrés par les juges, il faudra alors accorder la liberté provisoire aux députés pour raison de santé afin de se faire soigner, selon Damien Amoneil, conseil de Mwangachouchou, qui explique en quoi la procédure est irrégulière.
La procédure de flagrance est irrégulière dans la mesure où les faits générateur même de la flagrance n'est pas connu parce que dans la procédure ici, les faits des vidéos de Massissi n'ont pas été retenus comme infraction. Ils prennent comme point de départ les munitions des GP découvertes à la maison. Or, les munitions ont été découvertes après l'arrestation. En tant que député, on ne peut pas l'arrêter et découvrir l'infraction après.
Et comment vous réagissez face à la présence de tous ces effets qu'on a découverts, qu'on nous montre?
Oui, ça encore. Vous imaginez que les agents viennent à la maison de quelqu'un, ils ramassent ces effets personnels et ils amènent ça à la cour. Même des effets qui n'ont rien à voir avec l'infraction.
En revanche, le ministère public soutient que tout est régulier conformément aux articles 2, 5 et 7 du Code de procédure et selon la Constitution. Il demande à la Cour de se déclarer compétente.
Dans la province du Maniema, 15 présumés auteurs de l'attaque du cortège de Salomon Kalonda Dela, conseiller principal de Moïse Katumbi lors de son enrôlement le 17 février dernier, sont sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Kindu. Parmi eux se trouve Issa Koko, chargé de sécurité du gouverneur intérimaire du Maniema. Se confiant à Radio Kapi, l'avocat du parti politique Ensemble pour la République dit saluer le professionnalisme des services de sécurité. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
On a initié une plainte contre inconnu, mais la justice, vous savez que c'est une machine qui a enquêté et la justice a mis la main sur 14 personnes qui sont en détention. Mais aujourd'hui, il y a un des malfrats qui se nomme Coco, qui est le chargé de sécurité du gouverneur, qui a été mappé aujourd'hui. Mappé pourquoi? Parce qu'il a été cité par un certain Jacques Boer. C'est parmi les gens qu'on a donné de l'argent pour attaquer les spéciales de Salomon lors de son enrôlement. Donc, ce monsieur, il a cité ce monsieur nommément, qu'il était commanditaire et sa suite, parce qu'il y a plusieurs personnes que ces derniers a cité qui seront invitées d'un moment à l'autre en justice. Oui, parce qu'il y a d'abord Jacques Bauer avait été auditionné sur procès verbal et il a cité plus de 5 personnes. C'est ça l'état des droits qu'on est en train de prôner partout par les chefs de l'État. Aujourd'hui, la justice est debout au Maniema. On est en train de traquer le malfrat. Donc moi, ça peut me réjouir. Vous savez, il y a même le procureur général pour la Cour de cassation avait interdit à tout magistrat d'arrêter et pour quelques heures de libéré. Sinon, c'est comme si ça devient un amusement.
Par ailleurs, dans un communiqué rendu public hier mardi, Ensemble pour la République dénonce ce qu'il qualifie de planification de la fraude à grande échelle dans les processus électoraux en cours. Par conséquent, le parti de Moïse Katumbi exige la mise en place d'une CENI réellement indépendante, à même d'organiser des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles. Il en est de même de la Cour constitutionnelle qui doit être impartiale et non inféodée au régime en place. Ensemble pour la République dénonce aussi des manœuvres insidieuses et prend bonne note de l'incapacité du régime en place de doter la CENI des moyens nécessaires pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Enfin, ce parti dit prendre acte des accusations publiques graves du président de la CENI contre le gouvernement qui refuse de doter cette institution ni des frais de fonctionnement, ni des frais des opérations électorales depuis plus de 6 mois. Poursuivons ce journal avec la suite de notre série de reportages dans les provinces du Kwango et du Kwilu. Ces deux provinces à vocation agricole souffrent du manque des routes et de certes agricoles praticables. Même les jeeps 4x4 peinent à parcourir les voies existantes. Constat de Paul Matendo, notre envoyé spécial qui revient de cette partie du pays.
Du territoire de Diofa dans la province du Kwilu au territoire de Popokabaka dans le Kwango, il se dégage un seul constat. Les routes sont dans un état très délabré. La route qui part, par exemple, de la nationale numéro 1 à Bello-Centre dans le territoire de Diofa, longue d'une centaine de kilomètres, est très accidentée. Même les jeeps 4x4 ont du mal à parcourir cette voie qui pourtant est d'une importance capitale sur le plan agricole, comme le dit Dieudonné Matadi, chef de secteur de Bello-Centre.
La route est impraticable. Vraiment, si on pouvait réhabiliter cette route, ma population serait en joie de prendre leurs produits jusqu'à Kilembe sur l'asphalte.
Même tableau dans la province du Kwango où les produits agricoles pourrissent par manque de routes de dessertes agricoles praticables. Lucien Loufoutou, président du cadre des concertations provinciales de la société civile.
Si nous allons à Kingunda dans le territoire de Kassongolunda, les enfants jouent avec des pommes de terre qui ne peuvent jamais arriver à Kassa. Si jamais on reliait le route de cette agricole, vraiment l'impact sera très positif sur le plan économique.
La réhabilitation de routes de dessertes agricoles figure dans le PDL 145T, renseigne de sources proches de la CFF qui gère ce projet au Kwango Kwilu.
Et puis, des experts scientifiques nationaux et internationaux, organisations de la société civile et acteurs étatiques impliqués dans la gestion et protection de l'environnement recommandent une bonne maîtrise et connaissance du bassin du Congo. Ceci ressort de quelques analyses sur les efforts de la prévention des écosystèmes forestiers à la 2e conférence internationale sur la biodiversité dans ce bassin en cours à Kisangani. Bassin du Congo, considéré comme un patrimoine mondial naturel d'exception du fait, entre autres, de son rôle essentiel dans les économies nationales et local pour la centaine des millions de personnes qui y vivent. D'autres spécificités du bassin du Congo à travers ce condensé que nous propose Billy Van Lutumba.
Les résultats des recherches des scientifiques renseignent que les écosystèmes forestiers du bassin du Congo couvrent une superficie de près de 301 millions d'hectares sur 530 millions d'hectares de terres comprenant environ 70% de la couverture forestière de l'Afrique. Le bassin du Congo s'étend dans quelques pays de l'Afrique centrale parmi lesquels la RDC. D'après l'UNESCO, la moitié de la surface totale des massifs forestiers tropicaux d'Afrique se trouve en RDC. Reddy Chucha et Atta, botaniste attaché de recherche au Centre de surveillance de la biodiversité de l'Unikis.
Dans le bassin du Congo, on trouve des espèces qu'on ne peut trouver que dans le bassin du Congo et non pas ailleurs. Le bassin du Congo disposait d'une faune extraordinaire qui fait l'objet de beaucoup de sites touristiques.
Dans la liste des espèces florales et fauniques de par la planète, 20 000 espèces de plantes, 1 300 espèces d'oiseaux et 400 espèces de mammifères sont comptées au sein du bassin. Sur le plan des régulations du climat,
on reconnaît que le bassin du Congo est le premier pays au monde pour la séquestration de carbone. Quand vous allez dans la liste des essences exploitables, aujourd'hui vous allez trouver qu'en RDC, il y a beaucoup d'essences de première catégorie, notamment la Formosia et la Fusélia, un nom commercial et doucier. On trouve des plantes médicinales.
À travers ces écosystèmes forestiers, les chercheurs attribuent au bassin par ailleurs la création d'emplois directs et indirects et une redistribution des richesses. De Kisangani, Billy Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités ivoiriennes restituent ce mercredi 8 mars dans la matinée des corps de victimes de violences commises en mars 2011 au moment de la crise post-électorale 2010-2011. En tout, 3 localités, Guiglo, Blolekim et Toulepleu, sont concernées par cette cérémonie conçue pour marquer un acte de la réconciliation nationale.
L'invité.
Notre invitée est Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED à Goma. La sensibilisation contre la désinformation qui impacte sur la vie de la femme et de la communauté sera au cœur des activités initiées par ce collectif durant ce mois de mars 2023, mois de la femme. Isabelle Pendeza est à Goma avec Bernard Nyangui.
Madame Isabelle Pendeza, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez initié le réseau des femmes ambassadrices et vous êtes en phase de lancement d'un projet sur la désinformation, mais aussi cohabitation pacifique. D'abord, c'est quoi exactement le réseau des femmes ambassadrices?
En fait, le réseau des femmes ambassadrices, c'est juste un réseau qui met en place les femmes des différentes organisations qui travaillent beaucoup plus dans les questions de paix et de sécurité. Et nous, on s'est dit, on ne va pas rester seulement là à crier comme des victimes. Et donc, on doit maintenant changer de donne, on doit être des femmes actrices de paix et des changements dans notre province et pourquoi pas dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces réseaux-là, qui n'est pas différent des autres réseaux, mais c'est beaucoup plus les femmes qui travaillent beaucoup plus dans les questions de paix et de sécurité, selon l'agenda Femmes, Paix, Sécurité d'ailleurs. Là, on a travaillé beaucoup plus avec la chef de bureau de la MONUSCO, Goma, qui nous a donné des orientations pour ne pas rester des victimes, mais demeurer des actrices. C'est ainsi que nous avons proposé un projet parce que nous avons vu qu'il y a aujourd'hui la désinformation, il y a aujourd'hui des messages d'appel à la haine, aujourd'hui il y a des messages, des rumeurs qui circulent et ça impacte beaucoup plus négativement la femme et la jeune fille.
Comment, par exemple, ça impacte
ça
la femme et la jeune fille?
Vous savez que les numériques, dont d'ailleurs fait partie du thème de cette année pour la célébration de la journée des droits de la femme, c'est que beaucoup de gens partagent des informations sans pour autant se rassurer, se rendre compte de ce que ça peut créer dans la vie d'une autre personne. Et donc, on n'a pas cette culture de vérifier chaque information avant même de la partager. Et donc, on va appeler les femmes et les jeunes, ainsi que nos communautés qui vivent depuis longtemps ensemble, de demeurer ensemble et de cohabiter ensemble parce que la force d'ailleurs de notre province, c'est ces communautés qui constituent notre province. Et donc, on n'a pas intérêt à les discriminer, on n'a pas intérêt à se diviser. Donc, nous allons cohabiter ensemble et nous allons parler des questions de paix. Et la question de paix implique tout le monde là où il peut se retrouver.
Est-ce que cette activité-là ou ce projet a quelque chose à voir avec le mois de la femme?
Bien sûr. Comme je l'ai dit, la femme est au centre de ces projets parce qu'elle va partager son expérience, elle va parler des conséquences qu'elle vit chaque jour par rapport à ces désinformations, à ces partages des rumeurs. Et donc, nous allons parler de ça, pas comme des victimes. Franchement, c'est vrai que nous avons traversé beaucoup de difficultés et même jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je vous dis que cette année, on ne va pas vraiment célébrer la journée du 8 mars comme d'habitude parce que c'est vraiment une journée de deuil. C'est une journée où on doit s'asseoir et penser encore de nouveau par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui. Je pense que vous connaissez la situation dans laquelle nos sœurs passent des situations très très difficiles dans les sites des déplacés. Et donc, on ne peut pas chanter dans les salons pendant que dans la chambre, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de parler avec ces femmes. Aussi, essayer un peu d'insister à ce que la paix puisse revenir.
Vous allez travailler dans les 18 quartiers de la ville de Goma en particulier. Comment ça va se passer?
Oui, nous avions déjà identifié les femmes ambassadrices dans les différents quartiers. Je pense que nous allons travailler beaucoup plus aussi avec les autorités au niveau local qui doivent aussi nous accompagner parce qu'ils sont nos premiers partenaires. Nous avons planifié aussi des émissions radiophoniques mais aussi des émissions télévisées pour permettre à ce que chaque personne puisse avoir une idée par rapport à ces activités qui vont nous aider à lutter contre la désinformation, bien sûr.
Et cela, ce sera avec l'appui de la MONUSCO.
Le projet, c'est un projet des femmes. Et ce projet doit être mis en œuvre par ces mêmes femmes ambassadrices. Et nous-mêmes, nous allons nous approprier les efforts de ce projet parce que les conséquences que nous subissons chaque jour par rapport aux désinformations, par rapport aux discours de haine, par rapport aux rumeurs, ça nous touche chaque jour, quoi. Et c'est ainsi que la chef de bureau de la MONUSCO de Goma nous a accompagnés dans les cadres d'appui afin que nous puissions avoir accès aux 18 quartiers. Et là, nous allons aussi travailler beaucoup plus avec les autorités locales qui sont dans chaque avenue, dans chaque quartier. Et donc, c'est un projet qui va nous aider, nous tous, pas seulement les femmes, mais ça va aussi aider et les hommes et les jeunes.
Madame Isabelle Pendeza, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était notre invitée Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement, CAFED. Elle était à Goma avec Bernard Denyangui. Fin de ce journal qui a été supervisé et coordonné par Pelé Kipé Lamondo. La technique est assurée par Jean-Noël Mokondo Yogo. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.